Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel, chapitre 37, les 14 premiers versets. La vision des ossements desséchés, au nom de Jésus. La puissance du Seigneur me saisit, son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée dont le sol était couvert d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux. Dans cette vallée, ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors, le Seigneur me demanda, « Dis-moi, Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Adresse-toi de ma part à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis, je rétablirai votre respiration pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Je m'adressais aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres. Chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un homme ou mortel, adresse-toi de ma part au souffle de vie et dis-lui, « Souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. Je prononcerai les paroles que le Seigneur m'avait ordonnées et le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Tu vois, Ézéchiel, ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet, « Nous sommes comme des ossements desséchés, notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. » C'est pourquoi transmets-leur ces promesses que je leur destine, moi le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre patrie. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand je ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter. Quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie, oui, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai réalisé ce que j'avais promis. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. Amen. Pentecôte. Avant d'être une fête chrétienne, elle était et elle est toujours jusqu'à aujourd'hui une fête juive, qui s'appelle la fête du Shavuot en hébreu. La fête du Shavuot, dans le contexte hébraïque, elle vient clôturer la fête de Pesha, c'est-à-dire la Pâque, qui est le début de la sortie d'Égypte. Et la dernière étape de cette sortie d'Égypte est la fête du Shavuot, Pentecôte. Alors, quel est le rapport entre ces deux fêtes, Pesha, Pâques et Shavuot, Pentecôte? D'après une leçon rabbinique, ce qui est né lors de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le peuple d'Israël, était juste sans corps, mais un corps sans vie, disent les rabbins. Tandis que lors de la fête du Shavuot, de Pentecôte, c'est l'âme du peuple de Dieu qui est née. Donc quand Israël sortit d'Égypte, ils n'avaient pas encore cette âme de peuple de Dieu. Ils avaient encore un esprit d'esclave. Ils n'étaient pas encore libres, tout en quittant l'Égypte. Vous voyez, sur le chemin, ils avaient toujours envie de revenir. On veut revenir en Égypte. Ils avaient toujours cet esprit d'esclave, mais pas un esprit d'enfant de Dieu qui est né. Et comment cela se faisait-il? C'est lorsqu'ils ont entendu la parole, c'est-à-dire la loi, les 10 commandements, c'est à ce moment-là que l'esprit de l'âme de Dieu, de peuple de Dieu est né. Le Shavuot, c'est-à-dire le temps du don de la Torah. La Pentecôte, c'est le don de la parole. Et c'est pour cette raison qu'au tout début de ma liturgie, on ne met pas l'accent sur la manifestation du Saint-Esprit, mais on met l'accent sur le don de cette parole qui est donnée. Et je trouve que sous cet angle rabbinique, qui n'a rien à voir avec notre foi chrétienne, beaucoup de choses peuvent nous aider dans la compréhension de notre texte pour ce matin. Dans la vision, Dieu a donné l'ordre à Ézéchiel de... Dans le français courant, il dit juste 10, parle sur les ossements, mais dans plusieurs versions, il est utilisé plutôt prophétise. Et prophétiser, ça veut dire quoi? Parler au nom de Dieu. Prêcher la parole. Prophétiser, c'est pas dire ce qui va se passer demain. Prophétiser, prêche la parole. Dieu donne l'ordre à Ézéchiel de prêcher la parole, de proclamer la parole sur les ossements desséchés. Et que s'est-il passé? Dans un premier temps, les ossements se rapprochèrent, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais, c'est bien écrit, il n'y avait pas encore de souffle. Un peu comme le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, ils étaient encore esclaves, mais libres, esclaves dans leur tête. Et ce qui se passe ici, en tenant compte de l'explication rabbinique, c'est comme pour moi, c'est comme une conception d'un fœtus dans le ventre de sa mère. Cet enfant vit déjà, mais elle n'est pas encore née. Vous voyez le jeu du déjà et pas encore. Cet enfant est déjà là. Cet enfant, elle vit, mais pas encore née. Mais la naissance de l'enfant n'arrive pas encore à son terme. Il faut attendre 9 mois. Ensuite, dans un deuxième temps, l'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser ou de proclamer la parole. Et lorsqu'il prophétisa, c'est ce qui est dit ici, le souffle de l'Éternel venait des 4 coins de l'horizon, de la terre, souffla sur ses corps et ils reprirent vie. Et toujours en lien avec l'explication rabbinique, la vraie naissance alors est donc comme une mère qui arrive au terme de sa grossesse. Le fœtus peut maintenant sortir et devient un bébé. C'est tout ce travail-là qui est fait au moment du Shavuot, Pentecôte. Ce qui a attiré ma réflexion personnelle, c'est le fait qu'il a fallu prophétiser 2 fois pour que ces ossements puissent vivre. Pas une seule fois, 2 fois. Je me suis dit, pourquoi? Est-ce que Dieu ne pourrait pas faire ça en une seule fois? Il est Dieu, il peut tout. Mais il a dit, fais 2 fois. Donc, si nous faisons toujours le parallélisme avec l'explication rabbinique et comparer cela à notre fête chrétienne à nous, les disciples aussi ont réellement vu la gloire de Jésus quand il a été ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire à Pâques. Mais on peut dire que leur foi était encore faible. Ils étaient tout contents, oui, Jésus est ressuscité, mais vous savez tous qu'ils étaient encore enfermés dans leur pièce. Ils avaient encore peur. Donc, à Pentecôte, leur foi était ravivée de la cendre et en voyant l'Esprit-Saint arrivé sur. C'est là que la foi des disciples était vraiment née, à Pentecôte. Ils étaient encore enfermés entre eux à Jérusalem. Attendez la consigne que Jésus avait dit. Rappelez-vous dans Luc chapitre 24, verset 49. « Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Et ce n'est qu'à Pentecôte qu'ils ont osé sortir à l'extérieur comme un enfant nouveau-né qui sort du ventre de sa mère. Et ce jour-là, l'Église est née. Dès qu'ils sont sortis, ils ont prêché la parole. 3000 fidèles se sont convertis au christianisme. L'Église est née le jour de Pentecôte. Notre texte nous montre clairement que c'est la parole proclamée qui a rendu possible le rapprochement des ossements. Ensuite, c'est la parole qui a permis de redonner vie à ces ossements. En d'autres termes, les ossements étaient complètement passifs. C'est impossible que des cadavres puissent entendre. Or, il dit « Écoutez, cadavres !» Ils n'ont rien fait. Les ossements étaient passifs. Mais ce qui est actif, c'est la parole qui agit de façon incroyable, mystérieuse sur ces os. Oui, mystérieuse, car au verset 4, il a dit « Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Comment est-ce possible que des ossements puissent écouter? Il faut d'abord être vivant. Mais non, Dieu dit « Prophétise sur ces ossements. » Et pourtant, l'Éternel a ordonné à Ézéchiel de le faire. Ce qui veut dire, chers amis, que la parole de Dieu, elle est redoutable. La parole de Dieu, elle est opérante. Elle ne dépend pas du prédicateur. Elle ne dépend pas d'une institution. Elle ne dépend pas d'une église. La parole de Dieu, elle est autosuffisante. Et elle agit de façon mystérieuse. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas l'expliquer. Tous les théologiens essaient d'écrire des livres. Mais on ne sait pas comment cette parole agit. Comment se fait-il qu'il y a un qui reçoit, il y a un qui n'accepte pas? Pourtant, la force est la même. On ne sait pas l'expliquer. Il y a un mystère autour de cette parole. Mais voilà. Quel est notre rôle? Prophétise, c'est tout. Ce n'est pas à toi de faire se rapprocher les ossements. C'est à moi de faire revivre les ossements. Ta part se termine à la prophétie. Ta part se termine à la proclamation. Continue! Plus tu prêcheras, plus les gens vont revivre. Donc si nous voulons qu'il y ait vraiment une sorte de réveil, que les gens puissent vraiment soient vivantes, il faut que la parole soit prêchée de façon abondante. Et plus ils écouteront cette parole, plus leur foi va revivre. Elle agit par elle-même. Et pour cette raison que le mal essaie tout son possible de nous empêcher d'entendre cette parole, car dès qu'elle est prêchée, elle agit. Je ne sais pas, mais avez-vous remarqué à chaque fois ou avant que vous veniez au culte ou avant que vous allez prendre votre Bible chez vous, le diable cherche toujours une excuse pour que vous ne l'écoutez pas cette parole. Vous avez toujours des choses à faire. Tout à coup, il y a une chose à faire. Tout à coup, il y a un pépin. Tout à coup, ah oui, mais j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est ça, l'œuvre du mal. Il va tout faire pour vous empêcher de ne pas l'entendre parce qu'il sait que cette parole, elle est puissante. Dès que vous écoutez cette parole, elle agit. Alors, seule l'action de la parole de Dieu prêchée, entendue, qui crée en nous la foi. Ce n'est pas nous. Dieu ne nous demande pas d'avoir la foi. Dieu nous dit, mets-toi à l'écoute de ma parole, et c'est elle qui va créer la foi en toi. C'est elle-même qui nous fait bouger, c'est elle-même qui nous fait agir. Mais voilà, comme dans cette vision, il faut que nous soyons en contact avec la parole de Dieu pour que cette âme qui nous caractérise en tant qu'enfant de Dieu soit vraiment développée. Ne rêve pas avoir une foi inébranlable sans avoir écouté la parole. Ne rêve pas d'avoir une foi puissante si tu es fainéant à lire la Bible. Ne rêve pas d'avoir une foi comme Abraham, comme Ésaïe, comme tous ces grands hommes de Dieu, si tu ne prends pas le temps de la méditer. Beaucoup de personnes espèrent recevoir le Saint-Esprit d'un seul coup, mais plus la parole ici, elle est claire, plus les gens écoutent cette parole, plus l'Esprit de Dieu agit de façon silencieuse, mais elle opère. Et dans la vision qui a été montrée à Ézéchiel, le souffle de Dieu s'opère avec la proclamation de la parole. Il n'y a point d'Esprit Saint qui agit sans la proclamation de la parole. Si, faisant très attention à toute manifestation magique, usurpant le Saint-Esprit, qui dit « voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit », mais qui ne proviendrait pas de la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la parole. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un dogme, c'est biblique avec ce texte que nous avons ce matin. Toutefois, faisons confiance à l'action du Saint-Esprit par le biais de cette proclamation de la parole. Elle est capable d'ouvrir un chemin, même au milieu d'une mer déchaînée, cette parole. Dans le texte, quand Ézéchiel évoque le souffle de Dieu, regardez, il y a un détail interpellant. Sa façon de manifester le vent de Dieu, le souffle, me fait rappeler l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse, quand Moïse était devant la mer Rouge. Alors là, quand il a pris son bâton face à la mer, les vents des quatre coins du monde venaient de partout et qui ont ouvert la mer. Et cette même image revient ici avec cette histoire de souffle de Dieu avec Ézéchiel. Donc, Yahvé avait réuni les vents venant des quatre coins du monde pour se frayer un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Et ça nous donne un espoir pour nos amis, nos familles, que nous luttons dans nos prières, quand est-ce qu'ils vont recevoir cette parole? Même les personnes qu'on penserait être inaccessibles à la parole peut ouvrir un chemin là où il y a la mort. Même les ossements desséchés peuvent revivre. Crois-tu en cela? Tu vas peut-être dire, oui, mais lui, il s'en fiche de ça, il ne veut rien savoir, pour lui, c'est autre chose. Oui, c'est là, justement, que Dieu dit, proclame ma parole, là. Et tu verras que je vais ouvrir un chemin. Ce n'est pas toi d'ouvrir le chemin, c'est moi. Combien de personnes ont déjà témoigné? Combien de personnes qui ont dit, moi, je ne veux rien entendre de cette parole? Mais à la fin, Dieu est patient, Dieu est persévérant. Dieu nous suit toujours dans nos vies et il attend le bon moment pour coincer cette personne. Et il arrivera toujours à ses fins, par plusieurs façons. Mais ton rôle, ne te fatigue pas à proclamer la parole. Ne cesse pas de proclamer cette parole et il fera le reste. Amen.